Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
On se retrouve pour la suite de ce débat après les résultats de l'élection présidentielle au Mali hier et l'annonce de la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Juste avant le journal, Oumar en ligne de Sikasso nous disait qu'il se félicitait de ces élections, qu'il se félicitait également de la continuité à la tête de l'État. Maintenant, nous allons à Bamako où nous attend Issouf. Bonjour.
Bonjour François.
Alors pour vous, cette élection, elle n'est pas crédible du tout?
Elle n'est pas crédible. Moi, je crois que le dernier intervenant, Oumar, quand vous observez ce qu'il dit, il divague totalement. D'abord, il y a des choses à rectifier dans les propos des uns et des autres. C'est que la CEMA, les représentants de la CEMA n'existe pas dans la région de Mopti, n'est donc pas à Djéné. Et puis, quand il parle de la sécurisation dans la région de Mopti, en 2013, il y a eu moins de 10 bureaux où il n'y a pas eu d'élection dans la région, dans tous les Mali. Cette année, nous sommes à 900 et quelques bureaux.
Donc, alors, plus de 800 au premier tour et plus de 400 au deuxième tour.
Alors en 2013, il y a eu combien? Il y a eu presque zéro. Ça veut dire qu'on a reculé. Il faudrait que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de trop réfléchir pour ça.
Pour vous, Ibrahim Boubacar Keïta a bénéficié de fraude?
Pour moi, il n'y a pas de doute que Ibrahim Boubacar Keïta a bénéficié vraiment de fraude. Et Ibrahim Boubacar Keïta a utilisé l'appareil de l'État pour faire sa campagne. Il a utilisé les moyens de l'État pour faire sa campagne. Il a nommé des préfets, des sous-préfets à 2 ou 3 mois des élections et pour aller faire le travail qu'il a prévu avec eux de faire. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, Ibeka, il peut avoir cette légalité aujourd'hui, mais il n'a pas une légitimité en fait. Voilà.
Il a bénéficié aussi du soutien des signataires des accords d'Alger qui se sont occupés du scrutin dans le centre et le nord.
Autre point extrêmement important, c'est que, vous voyez, il y a des chiffres qui sont bizarres. Autant, pendant tout ce temps, les groupes armés ils ont crié haut et fort que les populations ne sont pas présentes, que les gens sont déplacés en Mauritanie, au Niger, en Algérie. Subitement, au cours d'une élection, tout le monde vote, les morts votent, mais c'est bizarre ça. C'est des chiffres qui doivent questionner. On n'a pas besoin de. Aujourd'hui, on a des vidéos qui circulent, on a des informations, on a des preuves, mais on n'a même plus besoin de ces preuves-là pour savoir qu'il y a une fraude. Comment est-ce qu'une, par exemple, une zone comme Tarkint où il n'y a presque personne, et sur le nombre de personnes inscrites sur la liste, tout le monde vote, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'abstention, c'est quand même. Il ne faut pas trop réfléchir pour comprendre ce qui s'est passé dans ces régions-là.
Voilà. Que doit faire l'opposition maintenant, selon vous? Est-ce qu'il faut contester, aller devant la Cour constitutionnelle?
Moi, je crois qu'aller devant la Cour constitutionnelle, à mon humble avis, ça sert absolument à rien. Parce que cette Cour constitutionnelle, elle est à la solde de M. le Président et de sa famille. Parce que regardez la composition de cette Cour constitutionnelle. 3 sont nommés par Ibeka, 3 sont nommés par le Président de l'Assemblée qui se trouve être son beau-père. Mais 6 sur 9, on va où? Et la Cour constitutionnelle a montré aussi la preuve qu'elle ne bougera pas. La première fois, l'opposition a fait combien de requêtes? Il y a eu combien de solutions retrouvées à ces requêtes? Donc, je crois que, à mon humble avis, cette Cour s'est autodiscréditée et elle ne sert à rien. Et là, ça pose la question de la réforme institutionnelle que Ibeka, si Ibeka est vraiment un patriote, doit mettre en œuvre au cours de ces 5 prochaines années.
Comme notre auditeur tout à l'heure, vous espérez que débarrassé de la perspective d'une nouvelle élection, il puisse améliorer les institutions du Mali.
Aujourd'hui, Ibeka, en se regardant dans le miroir, en se rasant, comme les gens le disent, il sait consciencieusement qu'il n'a pas été élu à la suite d'élections propres. Maintenant, il a 5 ans. Il a 5 ans pour rectifier le tir, pour faire une vraie réforme au niveau des institutions. Par exemple, reprenez la CENI, la Cour constitutionnelle, la Délégation générale. C'est des institutions qui ne servent absolument à rien. Mettre tous ces gens là pour organiser, ça ne sert absolument à rien. On a besoin peut-être d'une institution consensuelle qui s'occupe de tous ces processus du début jusqu'à la fin. L'administration, ce sont des militants du RPM, ce sont des cadres du RPM, donc ce sont des militants qui sont partis organiser ces élections. Donc, mais demain, même si Soumaïla vient ou une autre personne vient, si jamais on change pas ce système, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. On aura toujours des élections qui seront contestées. Et deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un renouvellement générationnel. Il faudrait que dans notre loi constitutionnelle, qu'on essaie de faire des réformes pour que ces réformes-là permettent ce renouvellement-là. Il ne faudrait pas qu'un maire fasse 4 mandats, 3 mandats. Il ne faudrait pas qu'un député fasse 3, 4 mandats. Il ne faudrait pas que des gens qui sont au niveau des directions centrales ou de l'État fassent 10 ans. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi les jeunes ne se sont pas concernés par ce vote-là. Il faudrait faire une offre politique à cette jeunesse-là pour qu'elle s'intéresse davantage à la vie politique et à la vie de la cité.
Merci, Souf, d'avoir été en ligne de Bamako, toujours dans la capitale. Abdoulaye est avec nous. Bonjour.
Bonjour François.
J'imagine que vous qui avez voté blanc aux deux tours, vous souscrivez à ce que vient de nous dire Issouf, il n'y avait pas vraiment de changement dans ces élections.
Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Moi quand même, pour moi et puis pour l'immense majorité des abstentionnistes, nous sommes presque 6 millions. Voilà, pour nous tous, nous ne pensons pas qu'il y aura un changement parce que c'est un peu cher de la rive valence, c'est la même classe politique qui est là depuis 1992. Ils sont tous issus du même parti ADEMA. Voilà, donc c'est comme un jeu de chaise musicale en fait. Nous, on sait pertinemment que pendant ces 5 ans, il n'y aura pas de changement majeur. Les 5 années passées, c'est empiré. Donc ces 5 années qui viennent maintenant, comme l'a dit mon professeur, je pense qu'il va peut-être qu'il est intelligent, il va tout faire maintenant pour mettre en œuvre maintenant des vraies politiques pour qu'il y ait au minimum un changement. Voilà, moi je pense que c'est la chose la plus bénéfique qu'il puisse faire pour le Mali, c'est de s'engager dans cette voie-là, de réformer le Mali de fond en comble, voilà, et d'essayer de résoudre au minimum les problèmes les plus urgents. Là, je parle de la sécurité, surtout, parce qu'on a vu que la situation sécuritaire s'est dégradée, malgré les importants moyens et dispositifs qui ont été mis en place, là, avec la présence de la MINUSMA, tout ça. Malheureusement, on voit que ça s'empire, donc nous, on n'a pas compris ça. Je pense que les gens sont dégoûtés, en fait, voilà.
Parmi les candidats de l'opposition, il n'y en a aucun qui vous attirait ?
Bon, certains avaient des projets intéressants, voilà. Mais je pense que l'urgence serait plutôt le renouvellement même de la classe politique, en fait. Voilà, comme l'a dit mon président, c'est vrai, il y avait Moussa Mara, par exemple, qui est un homme assez neuf. Il y avait aussi Cheikh Mourbodjara aussi, même si par le passé, il a été premier ministre aussi. Donc c'est des hommes, on va dire, qui n'ont pas trop traîné dans l'appareil d'État. Voilà, donc ça serait bien de pouvoir ces gens-là aussi voir s'ils peuvent maintenant participer, maintenant élaborer d'autres projets pour le développement concret du pays. Sinon, moi je pense qu'avec la classe dirigeante actuelle, quand même, franchement, ça ne va pas être le cas. C'est toujours le même système qui continue, malheureusement. Voilà. Moi je pense que l'abstention, c'est essentiellement dû à cela. Je pense que les Maliens sont extrêmement dessus, surtout la jeunesse, extrêmement dessus. Voilà, parce qu'on nous a fait des promesses, mais malheureusement, aucune de ces promesses s'est concrétisée.
Merci Abdoulaye d'avoir été en ligne de Bamako. Issiaka est aussi dans la capitale malienne. Bienvenue Issiaka.
Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors contrairement à vos deux prédécesseurs, vous êtes satisfait du déroulement du scrutin et de sa conclusion?
Oui, je suis totalement satisfait du déroulement de ces scrutins. Et vous savez, il faut appréhender ces scrutins dans leur contexte. Nous sommes dans un pays en crise. La situation n'est pas normale. Et si on n'avait pas eu ces élections, on allait se retrouver dans un vide juridique. Et écoutez, quand on va tout de suite aller au bout du mandat du président Ibeka sans qu'il n'y ait des élections, tout de suite, il faut voir l'armée qui va prendre le pouvoir. Et cela est une situation grave qu'il fallait éviter. Donc c'est pourquoi moi je disais sur vos antennes que ces élections sont des élections indispensables. Il faut appréhender ces élections dans leur contexte. Alors, le pays étant...
Excusez-moi, Issiaka, mais ce contexte, il ne s'est pas amélioré pendant le premier mandat Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, pourquoi lui en confier un second ?
Non, je pense que le confier un second, c'est parce qu'en face, il n'y a personne. En face d'Ibrahim Boubacar Keïta, ses adversaires que vous voyez sur la scène politique, moi, je ne vois personne qui puisse mieux faire qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutez, vous dites que le contexte ne s'est pas amélioré. Je n'en disconviens pas à 100%. Mais depuis janvier, en nos jours, avec le premier ministre Soumaïla Ouweméga, moi, je pense dire qu'on fait que le contexte est en train de s'améliorer. Regardez dans les centres, les attaques aujourd'hui se réduisent. Vous comprenez? Je pense que la situation sécuritaire est en train de se réduire et qu'on a seulement quelques postes d'insécurité qu'il faut gérer du jour au lendemain. Je pense cela. Mais moi, je dis que ces élections, ce sont des élections indispensables. Il ne faut pas les prendre comme des élections d'un pays en situation normale. On a évité un chaos, puisque s'il n'y avait pas eu ces élections, les Maliens n'allaient jamais s'entendre. On va rester ici dans une situation de médiation, on ne va pas s'entendre sur quelque chose, on ne pourra pas organiser les élections, on va perdre le Nord et encore continuer à perdre le Centre, alors qu'en 2015, on a signé un accord avec des groupes armés qui veulent déposer les armes, qui se sont inscrits dans une logique de paix. Ces groupes armés aujourd'hui, François, je vous dis, il n'y a pas de conflit entre les groupes armés qui avaient envahi ce territoire avec avec l'armée malienne. Il n'y a pas de conflit. Ces gens se sont inscrits dans une logique de paix. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est vrai, dans la mise en œuvre de cet accord, il y a eu des retards. Alors, Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, mérite ce deuxième mandat pour pouvoir mettre en œuvre, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Il faisait face à une opposition qui ne lui laissait pas le temps. Ibeka a été beaucoup amusé par l'opposition. Je pense qu'il mérite ce deuxième mandat pour satisfaire aux doléances qui sont inscrites dans l'accord de paix qui doit être forcément mis en œuvre. Et la communauté internationale a compris ce problème. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la communauté internationale, l'aménagement est là. Les forces Barkhane sont là aujourd'hui pour accompagner le régime actuel. Et moi, je dis... Les gens parlent de fraude et d'autres choses. Moi, je dis, écoutez, au Mali, ici, les candidats, l'homme politique qui a habité les Maliens à l'achat de conscience, c'est bien Soumaïla Cissé, parce qu'il est riche. En 2013, on a vu ici, moi, je supportais Soumaïla Cissé. C'est Soumaïla Cissé qui donnait de l'argent, ce sont ses partisans qui donnaient de l'argent pour aller voter dans les bureaux de vote pour lui. Et en 2018 également, ces actes se sont répétés. Bien de la part de Soumaïla Cissé et de la part de Brenda Kouakou.
Donc vous appelez l'opposition à privilégier la concorde nationale et à reconnaître les résultats.
L'opposition doit reconnaître les résultats, à privilégier la concorde nationale, parce que l'opposition a été impliquée dans ces processus depuis le départ. Je vous rappelle, c'est l'opposition qui a dit qu'elle n'est pas d'accord avec les cartes NINA avec lesquelles on a voté en 2013. L'opposition a imposé au Premier ministre à amener des nouvelles cartes d'électeurs. Le Premier ministre a cédé. En 2013, on avait 6 millions d'électeurs potentiels. En 2018, on a 8 millions d'électeurs potentiels. Et qui a empêché aux Maliens d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Les listes étaient disponibles avant les élections. Tout le monde pouvait aller s'inscrire. Si on dit, bon, le taux de participation est faible, mais les 18 millions de Maliens, qui ne dit mot comme ça? Moi, je pense que ceux qui sont partis voter, ce sont les bons citoyens et leur majorité a choisi Ibrahim Boubacar Keïta et ce choix doit être respecté. Soumaïla Cissé et ses partisans ont été, et ses amis opposants ont été impliqués dans ce processus. Ils ont présidé la commission de loi à l'Assemblée nationale qui a rédigé le projet de loi électorale. Ils ont imposé de nouvelles cartes électorales. Les représentants, au même titre que les représentants de la majorité, sont présents dans les
merci, Siaka. Je crois qu'on a compris votre point de vue. Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent à intervenir. Et j'essaye de leur passer la parole tant que possible. Merci en tout cas, Siaka. Vous étiez à Bamako. On va retrouver un Malien de la diaspora en région parisienne. Bonjour, Tunko.
Bonjour, bonjour.
Vous avez voté contre Ibrahim Boubacar Keïta, mais vous n'avez pas du tout été surpris de sa réélection.
Tout à fait. Je vous remercie, RFI, d'avoir nous donné parole pour nous exprimer notre pensée par rapport à notre pays, cher Mali. Ce que je constate, ces élections, je pense qu'on insiste encore une fois de plus. Les Maliens, j'ai l'impression qu'ils acceptent mascarade électorale, mais ce n'est pas défaut, ce n'est pas la faute personnelle d'Ibeka, c'est le système électoral malien qui est en jeu. Depuis en 2012, les élections transparentes et crédibles, acceptables par tous, c'est en 2012. À part ça, toutes les élections qui sont succédées au Mali jusqu'à présent, à chaque fois, il y a des contestations, contestations en contestations. Je suis d'accord avec le président pour aller aux élections. Je pense que l'opposition aussi, ils ne sont pas du contraire. Ils ont accepté d'aller aux élections. Ce n'est pas le fait que les élections se déroulent normalement dans les urnes. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est la compilation des résultats. Si le pouvoir il pense qu'il a gagné des élections, on demande tout simplement des transparences crédibles qui nous disent réellement comment ils ont gagné, comment les bureaux de vote, les bureaux par les bureaux de vote. On demande que ça. Et comme ça, on passe en avant. Mais par contre, moi, je ne sais pas pour Ismaïla ou Ibeka. Moi, je suis ensemble malien, que je soucie l'intérêt général des peuples maliens et que je demande tout simplement que je souhaite tout simplement que l'État malien et l'opposition comme la majorité qu'on a essayé de vraiment de réformer les systèmes électoraux pour bien gérer les élections, qu'ils soient municipales, législatives, présidentielles. Mais à chaque fois, les problèmes de résultats, les compilations de résultats, comment vous voulez qu'en l'État, qu'il s'organise lui-même une élection, ben, qu'il soit donné perdant? Mais c'est rare. Il n'y a aucun pays qui se donne perdant. Donc, dans ces cas-là, il y a un problème. C'est le système électoral qui est en jeu au Mali aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, si l'opposition estime que vraiment, il y a des fraudes, il y a le bourrage et des urnes, mais qu'il saisit la Cour constitutionnelle, même si on en doute la sincérité de la Cour constitutionnelle, mais on n'a pas d'autres moyens. Mais par contre, moi, je suis désolé, si Ibeka pense qu'il est légitime, il est élu démocratiquement par ce France malien, Mais je pense qu'avec 22% sur 8 millions, je pense qu'on peut poser vraiment des questions si c'est vraiment, il est bien élu ou il est illégitime aujourd'hui pour deuxième.
22% du corps électoral, hein, c'est ce que représentent ces voix au second tour. Merci Tunko. On reste en région parisienne avec Charlie. Vous avez voté, vous, à Montreuil, mais contrairement à Tunko, vous êtes satisfait de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Mais tout à fait, M. François Mazé, je suis très satisfait de cette large victoire. Lorsque l'opposition conteste bien avant le dépouillement des urnes, on est en droit de se poser des questions. M. François Mazé, vous savez, ni bourrage d'urne, ni assaut de conscience, ni manipulation, mais tout simplement le triomphe de la vérité sur les allégations mensongères. Le triomphe du patriotisme sur la haine et le communautarisme. Le triomphe de la sagesse sur l'excitation et de la médisance. L'homme politique Ibeka, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas aimer les Mali plus que lui. Il est incontestablement l'homme de la situation.
Alors, l'homme de la situation, qu'est-ce qu'il doit faire selon vous dans les 5 prochaines années? Quelle doit être sa priorité absolue?
Mais sa priorité, c'est ce grand chantier qu'il a battu pour, la stabilisation et l'aspect sécuritaire du Nord. Vous savez, concernant les signatures d'accord, on peut dire accord, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a eu signature d'accord dans lesquelles les protagonistes se sont engagés pour le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et la laïcité, la reconnaissance de la diversité culturelle des communautés du Mali. Alors la bonne gouvernance, la solidarité, tout ça revient aux actifs d'Ibrahim Boubacar Keïta. Histoire de vous dire quand même que l'accord d'Alger vaut en loin son pesant d'or comparativement à l'accord de Ouaga dont Tchibeline Dramé a été l'artisan. Il n'y aura pas de troisième tour dans la rue, monsieur Mazé. Les Maliens sont assez intelligents pour ne pas cochonner une nouvelle crise dans un pays qui cherche à s'élever. Ibrahim Boubacar Keïta a fait beaucoup pour ce Mali. On peut lui reprocher tout, mais il faudrait savoir tout simplement que c'est l'homme qui a relevé le Mali, le dépoussiéré pour le hisser au sommet de la diplomatie internationale.
Merci Charlie, merci. On va retourner à Bamako pour retrouver Abderrahmane. Bonjour Abderrahmane.
Bonjour François, bonjour.
Vous êtes inquiet du taux de participation qui a été très faible et vous estimez que le président Ibrahim Boubacar Keïta va devoir tirer des leçons de cette élection.
Tout à fait. Je pense que cette victoire, elle est salutaire, mais elle doit être prise avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse. Mais juste permettez-moi, avant, je voulais juste parler par rapport aux suspicions de fraude et tout ce qui se passe et aux marches prévues aussi de l'opposition. J'aimerais tout simplement dire qu'il est temps qu'on ait pitié de ce peuple malien. Le peuple malien a beaucoup souffert. Et il est temps que ces hommes politiques se ressaisissent. J'ai envie de passer ce message pour qu'on ait pitié du peuple malien. Mais pour revenir à ce que...
Donc ce qui veut dire, excusez-moi Abderrahmane, pour expliciter, pour vous l'opposition ne doit pas contester les résultats pour sauvegarder la concorde nationale?
Tout à fait, il n'y a rien à contester. J'ai fait juste un petit calcul très rapide. Hein. J'ai pris l'ensemble des cartes d'électeurs retirées dans les 3 régions du Nord, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal. Ces cartes d'électeurs, ça veut dire que les électeurs potentiellement qui peuvent aller voter, ça représente 622 000 voix. J'enlève les 622 000 voix dans les 1 798 000 voix du président sortant, il est toujours en tête avec 1 175 000 voix. Donc ça veut dire que les bourrages d'urne, tout ce dont on peut parler, ne tiennent pas la route. Mais pour revenir à ce que le président doit faire, je pense que sa victoire aujourd'hui, c'est une victoire d'unité, c'est une victoire de paix. Et il doit beaucoup cette victoire aussi au fait qu'il a pu trouver un chef de gouvernement qui a pu donner le cap de l'avancement. Le cap, parce qu'effectivement, il ne faut pas négliger que pendant 4 ans, on était en hibernation. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui critiquent le régime. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des moments où absolument on n'a pas fait grand-chose. Mais depuis 1 an, je pense que le cap a été trouvé. Et il est temps qu'il continue très rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Et pour moi, il faut unir le peuple malien. Il doit travailler à unir le peuple malien. Il doit travailler à lutter contre la corruption et le népotisme. Il faut le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Et cette victoire, c'est une victoire pour la quête et c'est la victoire de la dernière chance. Et j'appelle le président en rentrant vraiment qu'il se batte pour unir le peuple malien et qu'il combatte la corruption et qu'on se